Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. On entend parfois dire « je suis croyant, mais non pas pratiquant ». Il serait possible de croire sans se convertir aux exigences de Dieu. Mais dans la bouche du Christ, la conversion et la foi sont indissociables. La foi sans la conversion n'est pas la foi. La foi sans les œuvres est morte, dit saint Jacques. Et la conversion sans la foi, eh bien c'est une coquille vide. Être croyant sans être pratiquant, ce n'est pas avoir la foi. Ou plutôt, c'est avoir une foi, une croyance de ce que l'on pratique concrètement. C'est donc avoir une autre croyance, mais non pas la foi catholique. Cette erreur, nous la trouvons peut-être fausse. Pourtant, elle existe dans un mode plus subtil, à la sauce chrétienne, on peut dire, cachée sous des années de pratiques religieuses et régulières. Je crois, mais finalement je tends peu à vivre comme Jésus. Concrètement, au final, je sépare conversion et foi. Eh bien, ce matin, je vous propose de redécouvrir pourquoi notre foi et notre conversion sont intimement liées et comment elles s'articulent. Nous pourrons ensuite dégager quelques applications concrètes pour notre vie. Pour comprendre le lien qui existe entre conversion et foi, il faut d'abord saisir ce qu'est la foi. La foi, c'est d'abord un acte de mon intelligence. J'adhère à une vérité que je ne vois pas moi-même et qui m'est révélée. Si je vous dis qu'il y a une statue de la Vierge Marie ici, vous allez la voir, ce ne va pas être de la foi puisque vous la voyez. Mais si je vous dis, dans la cellule, dans la chambre du Père Henri, il y a une grosse statue de Saint Vincent de Paul pesant 100 kilos. Comme vous ne voyez pas cette statue, vous pouvez adhérer à cette vérité ou non. Si vous étiez dans la cellule, vous verriez la statue, il n'y aurait pas de foi à avoir. Cette vérité s'imposerait à mon intelligence. Je n'aurais pas le choix d'adhérer ou non. Mais si je ne vois pas la chose, je peux ou non adhérer. Et cela dépend de la confiance que j'ai en la personne qui m'énonce cette vérité. Est-elle déjà entrée dans la cellule du Père Henri? A-t-elle l'habitude de me raconter des bobards? Si la personne est compétente et qu'elle ne m'a jamais raconté de mensonges, je peux lui faire confiance. Et alors, c'est ma volonté qui fera que mon intelligence adhère à cette vérité. Mais il y a un autre facteur, un facteur qui peut faciliter mon adhésion ou au contraire fait que je vais repousser, ne pas adhérer à cette vérité. C'est le fait que cette vérité peut avoir un impact dans ma vie. Si je vous dis, il y a une grosse statue de 100 kilos dans la chambre du Père Henri, il faut que tu la prennes, que tu la portes et que tu la descendes en bas. Là, on commence à sentir que la foi, ce n'est pas seulement une œuvre d'intelligence. C'est bien un acte d'intelligence, mais ce n'est pas que cela. Il y a aussi ma volonté, toute ma personne, mon corps même. Si vraiment cette statue existe, ben ça veut dire que mon dos va peut-être souffrir un peu. Et j'aurai peut-être quelque chose d'autre à faire à ce moment-là. J'aurais peut-être envie d'aller jouer. Et alors je dirais, pour éviter la chose, non, je ne vous crois pas, je ne crois pas qu'il y ait de statue là-dedans, comme ça, ça m'évite tout simplement d'aller la porter. Lorsque Jésus vient et qu'il indique que le royaume est arrivé, il ne dit pas seulement, c'est indicatif, hein, prenez juste note. Non, il nous invite à entrer dans le royaume. Et ça se fait par la foi et par la conversion. L'annonce de l'arrivée du royaume n'a aucun intérêt si on n'invite pas les gens à rentrer dedans. Cela a un impact dans ma vie. Si Dieu existe, cela veut peut-être dire que je vais devoir changer quelque chose dans ma vie. Que je vais devoir quitter ma deuxième femme. Que je vais peut-être devoir quitter mon travail hyper lucratif, mais absolument malhonnête. Que je vais devoir arrêter mes médisances, mes tricheries. Mais si je suis attaché à ces choses-là, parce qu'elles m'apportent quelque chose, si je ne veux pas les quitter, alors je n'adhérerai pas, je ne donnerai pas ma foi à Dieu. Ce n'est pas un motif intellectuel qui m'en empêche. C'est un problème de volonté. Ce n'est pas une déficience de l'intelligence, c'est une mauvaise attache. Je vois bien la vérité, je la saisis très bien, mais je ne veux pas y adhérer parce que ça ne m'est pas avantageux, parce que je ne veux pas. Voilà pourquoi, avant de pouvoir adhérer avec mon intelligence, il faut que ma volonté, ma personne même, soit attachée à ce qui est bon. Voilà pourquoi Jésus dit que la conversion précède la foi. Jésus ne dit pas « Croyez en l'Évangile et convertissez-vous », mais « Convertissez-vous et croyez en l'Évangile ». Conversion veut dire changement d'orientation. Le péché originel et mes propres péchés m'ont détourné de Dieu et m'ont tourné vers les créatures. La conversion, c'est le mouvement inverse. C'est se détourner des créatures pour me tourner vers Dieu. Alors ma vie est totalement polarisée par lui, qui est le seul vrai bien, la seule vérité. Voilà pourquoi le Christ dit « Convertissez-vous et ensuite seulement croyez à l'Évangile ». La conversion précède la foi. Mais à l'inverse, les lumières de la foi m'aident à comprendre combien les biens de ce monde passent. Et c'est ce que dit saint Paul, car ils passent, le monde tel que nous le voyons, et il nous exhorte à ne pas nous y attacher. La foi nous montre comment Dieu est le vrai bien. Voilà pourquoi la prédication de Jonas, les habitants de Ninive croient en Dieu. Ils ont la foi d'abord, puis annoncèrent un jeûne. La foi me montre la bonté et la grandeur de Dieu, et elle me pousse ainsi à me détacher des autres biens pour m'attacher à lui, le seul vrai bien, à ce vrai bien qui seul peut me combler. Foi et conversion se nourrissent, sont comme deux sœurs, deux ailes qui nous permettent de nous élever vers Dieu. Croire implique tout mon être, toute ma vie, même mon corps parfois, pas seulement mes idées. Je ne peux croire en Dieu qu'à mesure que je me détache des créatures pour m'attacher à lui. Et plus je crois en lui, plus je veux m'attacher à lui. Plus je me convertirai, plus ma foi grandira. Plus ma foi grandira, plus je me convertirai. On ne peut grandir en sainteté sans purification. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Foi et conversion sont donc indissociables. Voyons maintenant deux applications concrètes. D'abord, l'éducation des enfants. Ensuite, le carême de cette année. L'éducation des enfants. Je suis croyant, mais pas pratiquant. Nous voyons bien que cela est faux. Mais si nous veillons à ce que nos enfants connaissent leur catéchisme, à ce qu'ils croient, nous manquons parfois de vraiment les inciter à la conversion et à la pénitence. Et quand je dis « nous », je dis « je m'inclus », les enfants nous sont confiés, bien souvent. Ainsi, nous pouvons leur parler de la nécessité de la prière, de la grandeur de cette union à Dieu. Mais si je ne leur apprends pas à prier, si la prière du matin ou la prière du soir en famille passe trop souvent à l'as, alors concrètement, j'agis comme celui qui dit « je suis croyant, mais pas pratiquant ». Je crois en la nécessité de la pauvreté, en la grandeur de la pauvreté. Je leur en parle, mais je les inscris dans 3 clubs de foot différents. Il y a des vocations qui se perdent. Pierre, Jacques, André et Jean ont quitté leur filet, quitté leur métier, leurs moyens de subsistance, pour pouvoir devenir pêcheurs d'hommes, pour pouvoir sauver des hommes, les amener à la conversion. Il y a des vocations, des jeunes hommes, jeunes femmes, qui ne sont même plus capables de quitter leur filet de football pour pouvoir sauver des hommes, parce qu'ils sont pris dedans. Cela ne veut pas dire que c'est facile. Regardez comment Jonas a fui sa mission d'abord. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas, de nouveau. Ça voulait dire que ce n'était pas la première fois, ça voulait dire qu'il avait fui. Aller dire aux païens leurs 4 vérités n'était certainement pas la mission la plus agréable. Corriger ses enfants peut être usant. Combien de fois avons-nous été pris sur nos écrans? Avons-nous voulu une fausse tranquillité? Et avons-nous cédé? Alors que nos enfants avaient besoin d'un nom ferme à un de leurs caprices. Voici ce que dit l'Esprit Saint par la bouche de Saint Paul. Et vous, Père, je peux vous dire que dans le cœur d'un prêtre, ça résonne, Père. Et vous, Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Des parents, des prêtres, des religieux éducateurs qui ne corrigent pas leurs enfants ne les aiment pas. Ils vivent en croyant, non pratiquant. La vie spirituelle des jeunes qui nous sont confiés ne dépend pas seulement de l'instruction catéchétique que nous leur donnons, mais de la haine du péché, de la haine du mal et de l'amour du bien que nous leur inculquons. Et cet amour passe par les actes, par la répétition et donc par la correction. Ces jeunes, pour aimer Dieu, ont besoin de nos corrections. Ils en ont besoin pour être sauvés, pour accomplir leur vocation. Et vous, jeunes, priez pour nous. Priez pour que vos parents, vos éducateurs soient courageux, aient le courage de vous corriger, de corriger vos mauvaises tendances, pour vous tourner vraiment vers Dieu. Deuxième application, le carême de cette année. Alors vous allez me dire, mon père, le carême c'est dans 4 semaines là, wow, wow. Attention là. Ouais, mais regardez. Généralement, qu'est-ce qui se passe? On prend nos résolutions alors que le carême est déjà commencé, et à la mi-carême, on s'est déjà arrêté. Parce qu'on n'a pas pris les bonnes et qu'on n'a pas calculé sur la durée. Or, mes résolutions, elles contribuent à ma conversion, et donc à ma foi, à ma sainteté, à mon union à Dieu. C'est pour cela que le démon a une haine profonde du carême. Il sait que nos efforts préparent la croissance de notre foi, de notre sainteté. Plus je me convertirai, plus ma foi grandira. Il n'a clairement pas intérêt à ce que je prenne des résolutions, et surtout les bonnes résolutions, et qu'elles durent. Donc, premier moyen pour prendre les bonnes résolutions, celles qui favorisent la croissance de notre foi, je commence à y réfléchir ces prochaines semaines. Et je vais me confesser juste avant le carême. Et à ce moment-là, je soumets mes résolutions au prêtre. Je lui dis, mon père, qu'est-ce que vous en pensez? Et peut-être qu'il va me dire, bah, il y a peut-être un réajustement à faire là. Vous visez trop haut, ou là, à mon avis, vous pouvez pousser un peu plus là. Premier regard extérieur, aidant et aimant. Après, comment les tenir dans la durée? Deuxième moyen, proposer à une personne de former un binôme pour le carême. Les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes. Vous vous parrainerez mutuellement et vous vous donnerez un petit encouragement quotidien. Ça peut être par SMS, par téléphone, d'appel. Et peut-être, chaque semaine, un petit bilan. Voilà. Voilà ce que j'ai choisi comme résolution, voilà où j'en suis. Et si votre binôme se décourage ou tombe, vous le relèverez. Et vous serez à porter son poids si nécessaire. Essayez de trouver vous-même votre binôme dans vos relations. Si jamais ça peine, bien vous venez me voir et puis on essaiera de trouver quelqu'un. Frères et sœurs, convertissons-nous et croyons à l'Évangile. Et pour devenir croyants, commençons par devenir pratiquants. Amen.